Et au menu de notre club du vendredi, la marche pour les sciences, un cerf-volant pour tracter des bateaux, une exposition sur le racisme et la bataille scientifique de Napoléon. Je vous présente mes invités dans un instant. Et puis comme tous les jours de cette semaine, dans la dernière partie de l'émission, ce sera le rendez-vous avec la campagne officielle pour la présidentielle. Stéphanie Texier est aux commandes de notre club qui a été préparé aujourd'hui par Dylan Beiner.
La tête au carré, le club avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et je salue mes invités Evelyne Heyer, Yves Parlier, Christian Yoroum et Robin Vigouroux. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Bienvenue. Robin Vigouroux, vous faites partie du comité national de la marche pour les sciences. Ce sera demain partout dans le pays. Mobilisation mondiale pour soutenir les chercheurs. Les Français, ils sont bien mobilisés avant demain?
Ouais, les Français sont très mobilisés, donc déjà par rapport à notre message à travers la presse, on est très représentés, donc France 3, Arte, même les journaux Le Monde et compagnie. On a aussi un soutien très large, donc des instituts de recherche, ainsi que à travers même les syndicats de l'enseignement et de la recherche supérieure.
Et les citoyens.
Et les citoyens, bien sûr.
Ouais.
Donc ça, c'est quand même c'est très agréable de voir que ça a fait vraiment effet boule de neige et que on arrive quand même un aboutissement d'un mouvement qui est très important et qui est à cœur de tous les Français et tous les citoyens.
Donc il faudra descendre dans la rue demain pour justement vérifier le succès de ce rendez-vous. Ce sera Paris, Nantes, Orléans, Saint-Rémy-de-Provence, Strasbourg, l'île de la Réunion. On en parlera avec vous dans un instant. Evelyne Heyer, nous et les autres, des préjugés au racisme, c'est une exposition à voir au Musée de l'Homme. C'est jusqu'au 8 janvier prochain. L'occasion de découvrir que la France est un pays plutôt très ouvert à l'autre, non ?
Finalement, oui.
C'est une des conclusions de l'exposition.
C'est une des conclusions, bien qu'il, par contre, il reste encore des discriminations contre lesquelles on a encore du travail à faire.
On parlera de l'exposition et voir comment vous l'avez articulée. Yves Parlier, Christian Yoroum, vous avez eu un rêve, celui d'utiliser des cerfs-volants pour tracter des bateaux. Et ce rêve, Yves Parlier, est en train de se réaliser.
Oui, ce rêve, il a un nom, c'est Beyond the Sea. On est financé par l'ADEME et les investissements d'avenir. Beyond the Sea est constitué d'un consortium avec donc un acteur référent, l'ENSTA Bretagne, au niveau académique. Trois industriels leaders mondiaux comme Porcher Industries pour les tissus, Cousin Trestec pour les cordages, très important pour relier le cerf-volant au bateau. L'entreprise BOP pour les treuils.
Enfin, on ne va pas citer toutes les entreprises qui vous accompagnent. C'est quoi le principe ?
Non, c'est surtout donc le principe, envoyer un cerf-volant pour utiliser l'énergie du vent pour tracter des navires de toute taille.
Ouais, Christian Yoroum, les essais, ils ont eu lieu ce mois-ci, justement.
Absolument.
À Quiberon, ça fonctionne bien ? Qu'est-ce que vous avez tracté avec votre cerf-volant ?
Alors, on tracte un joli support qui s'appelle le Kite Lab. Son nom est assez sympathique. Laboratoire pour la traction par kite. C'est un support de 6 mètres avec un déplacement de 850 kg. Et on mesure, en fait, le fonctionnement du kite, ses efforts sur le bateau, la stabilité du bateau. On essaye, grâce à ça, d'avoir les informations pour nous conforter dans tous nos calculs un peu de professeur cosinus, si
voilà.
Vous voulez.
Et l'idée, ce serait même d'arriver à tracter un cargo. Vous êtes très ambitieux.
Un porte-container. De la SEMA-CGM, puisqu'on est partenaire avec cette compagnie qui est le troisième acteur mondial de porte-containers, qui a 450 navires et qui espère équiper sa flotte de notre système pour économiser des énergies fossiles et limiter les gaz à effet de serre.
Donc peut-être bientôt des cerfs-volants sur les océans du monde entier pour économiser du pétrole et puis prendre soin également de l'air que nous respirons. On va évoquer tous ces sujets dans un instant avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque.
D'encore dégager quelques excédents, eux sillonnent le continent de long en large, recherchent une place dans le sens de la marche, l'essence du pays échappe, l'histoire la rattrape, l'exode les happe, s'étale sur plusieurs années. Au milieu aval, la Méditerranée. Combien de temps nos demandes sur l'algorithme des mots en rythme pour demain, avoir avec quelle cadence ces rapports souffleurs nonchalance, va croire au boniment de devins qui disent qu'un divin calcule nos régiments, il respire comme il monte.
Le grand dérèglement, c'est François and the Atlas Mountain.
Le club carré sur France Inter.
Et au menu de notre club, donc la marche pour les sciences, un cerf-volant pour tracter des bateaux, une exposition sur le racisme et la bataille scientifique de Napoléon. Et j'attends bien sûr vos messages, vos questions en direct, franceinter.fr et les réseaux sociaux avec le mot-clé l'attaque. On commence donc avec vous, Robin Vigouroux. Vous êtes doctorant en neurosciences à l'Institut de la Vision et vous êtes membre du comité national de la marche pour les sciences. Et donc demain, partout dans le monde, c'est la journée de la Terre et les citoyens et les chercheurs vont marcher ensemble. Alors pour cet événement qui a été initié d'abord aux États-Unis, on peut le rappeler?
Oui, oui, tout à fait. Ça a été le début historique de cette marche est assez intéressant parce qu'en fait, il a commencé dès l'élection, enfin la prise de Donald Trump, qui en fait très rapidement a eu des actions climato-sceptiques, qui en fait a retiré certaines publications scientifiques de la libre parole. Mmh. Et du coup, ça a en suivi certains scientifiques du coup de commencer des comptes rogues, donc un peu rebelles, pour essayer de s'exprimer justement.
Des comptes parallèles en fait, c'est ça? Pour
ouais, c'est ça.
Diffuser donc, de l'information et de la connaissance scientifique.
Exactement,
hein.
Parce qu'elle était interdite. Ouais. Et du coup, ça a très vite fait écho avec les organisateurs de la marche qui ont commencé le mouvement en même temps. Et donc maintenant, on se retrouve quelques mois plus tard avec... on est le deuxième pays avec le plus de marches.
C'est vrai?
Ouais, donc il y a à peu près... Ouais. C'est ce que je disais au début, ça change toutes les, enfin cette semaine en particulier, mais on a 22 marches en France.
Oui.
Et aux États-Unis, ils ont plus de 400.
Oui, dans tous les États et dans beaucoup de villes des États-Unis, ouais, évidemment.
Exactement.
Alors pour les Français, on peut aller sur un site marchepourlessciences.fr pour ouais. retrouver la ville la plus proche de chez soi.
Hein, exactement.
Et pour pouvoir aller marcher donc demain. Alors pour les Parisiens, ce sera à partir de 13h.
À 13h.
Place Valhubert, donc c'est à côté du Jardin des Plantes, au bord de la Seine. On organisera d'ailleurs à cette occasion un Facebook Live avec l'équipe de la Tête au Carré. On va suivre et rencontrer les chercheurs. Evelyne Ayer ne sera pas là pour marcher parce qu'elle sera occupée au Musée de l'Homme, c'est ça hein?
Ben oui, malheureusement, parce que je suis quand même professeure au Muséum, mais c'est malheureusement, ça. Je ne peux pas être partout
et
à la
voilà.
fois.
Mais vous soutenez, j'imagine, quand même les organisateurs et tous ceux qui vont marcher
demain. Ah non, tout à fait.
Demain.
Tout à fait. On a vraiment besoin d'une science indépendante et qui est libre de penser.
Ouais. Il y a vraiment une impression d'obscurantisme aujourd'hui autour de la science, une tentative en tout cas.
Bah, aux États-Unis, en France, non, pas trop. Pour l'instant, nous, on est plutôt dans un statut où on est plutôt protégé. Le problème en France, c'est plutôt les salaires des jeunes chercheurs qui deviennent ridiculement bas et qui finalement empêchent plein de gens de poursuivre une carrière en recherche. Donc, on exclut finalement de notre système plein de gens très intelligents.
Ouais, Romain Vigouroux, pourquoi on se bat alors en France?
Alors, bah, moi, j'aime bien penser à ça d'un point de vue de prévenir avant de guérir, parce que on voit aux États-Unis à quel point en fait, la fragilité de la science peut vraiment l'être. Et du coup, aussi, d'un point de vue solidarité. Donc, on oublie très souvent aussi que la science, c'est quelque chose qui est collaboratif à la base. Mm-hmm. Et souvent, à une échelle internationale. Et quand, en fait, un pays est touché, surtout un pays comme les États-Unis, en fait, c'est la science internationale qui est touchée. Et pendant notre conférence de presse mardi dernier, il y a eu un écho, enfin, une des parties... des intervenantes a fait écho à cela, surtout d'un point de vue du climat, parce qu'il y a des centres de recherche du climat qui sont centralisés, donc il y en a 3 aux États-Unis, une en Angleterre, une en Allemagne, une en France, mmh. et s'il y en a une ou deux qui se ferment sur ces 6 centres, c'est un impact énorme pour le monde. Et donc Bah, je pense que de toute manière, en tant que Français, en tant que citoyen, moi, je me ressens impacté par ce qui se passe aux États-Unis.
Ah, moi aussi, tout à fait d'accord.
Ouais. Alors, en tout cas, vous êtes déjà parvenu à un large rassemblement, hein, on le disait tout à l'heure, des organismes publics, des syndicats, des associations, des blogueurs, et ça dans toutes les disciplines scientifiques, des organismes de recherche qui prennent position et qui appellent à manifester. Evelyne Ayer, c'est quand même une première, ça, non?
C'est assez rare, quand même, dans l'histoire de nos institutions de recherche.
Absolument.
Tout à fait.
Donc, ça dit quelque chose, quand même, de la situation.
Tout à fait. Mais ça dit c'est quelque chose, effectivement, il faut être vigilant. Et c'est vrai que la recherche, elle est en réseau. Donc, une maille du réseau qui s'effondre, et ça peut mettre en l'air tout le réseau.
Ouais. Yves Parlier, est-ce qu'en tant que citoyen, vous auriez envie d'aller marcher pour soutenir les chercheurs?
Déjà, j'ai été le parrain de l'année de la physique.
Ouais.
Et j'ai toujours été très intéressé par les sciences et la recherche. Plus particulièrement, forcément, par le climat, puisque quelque part, le projet Beyond the Sea,
absolument,
une des principales motivations, c'est d'œuvrer pour le climat et de limiter un peu les gaz à effet de serre.
Mmh. Et donc, vous serez où demain, Yves Parlier? Vous êtes où demain après-midi?
Je rentre à Arcachon ce soir.
Arcachon.
Je pense qu'à Bordeaux, il y a peut-être une marche.
Eh bien, je vous le confirme. Je clique sur Bordeaux et ce sera à 15h à côté de la maison éco-citoyenne Quai Richelieu, tramway station Porte de Bourgogne. Voilà, on donne tous les détails.
Ouais. Parfait.
Voilà. Et pour les Parisiens, donc, ce sera place Valhubert demain à partir de 13h. Il y aura des animations, un orchestre de jazz, des présentations également pour les plus jeunes.
Exactement. Il y aura des animations scientifiques. Donc, ça va être assez sympa. Ça va être présenté par les petits débrouillards. Et donc, le rassemblement va se durer pendant une heure, donc de 13 à 14 heures. Donc, comme vous l'avez dit, il va y avoir un petit concert de jazz et on va aussi avoir des intervenants. Donc, on appelle ça la tribune officielle. Mais il va y avoir certains intervenants avec, qui sont très divers. Et,
pour faire entendre des voix de soutien.
Exactement.
Évidemment.
Pourquoi est-ce qu'eux marchent? Pourquoi est-ce qu'ils soutiennent cette marche?
Christian Lioreau, vous serez où vous demain après-midi? Vous retournez du côté de la Bretagne ou pas?
Pas dans cette direction-là. À la direction complètement opposée, je serai à Munich. Alors, peut-être qu'en Allemagne.
Aller à Strasbourg. Moi, je vous propose Strasbourg.
Je peux faire une halte à Strasbourg.
Voilà, le plus proche, effectivement, de Munich, ce sera Strasbourg. Place Kléber, 14h demain et départ de la marche à partir de 15h. Voilà, le plus simple, c'est d'aller sur le site marchepourlesciences.fr et La Tête au Carré sera là-bas en direct avec le Facebook Live. Evelyne Ayer, vous êtes professeure en anthropologie génétique au Muséum National d'Histoire Naturelle et commissaire de cette exposition à voir en ce moment, Nous et les Autres, des préjugés au racisme, au Musée de l'Homme, donc c'est jusqu'au 8 janvier prochain. Comment est-ce qu'on s'y prend pour parler scientifiquement du racisme? C'est un problème d'aborder ce type d'exposition ou pas?
Ouais, c'est difficile. Franchement, c'est difficile.
Ouais, j'imagine.
Mais je pense qu'on y est arrivé. Je suis très fière de ce qu'on est arrivé à faire. Donc, c'est bien sûr plein de chercheurs qui ont participé. Et l'idée, c'est de trouver vraiment le juste ton pour vraiment délivrer des informations. Notre idée, c'est que le visiteur fait un espèce de voyage où il va comprendre les mécanismes qui peuvent amener au racisme.
Ouais, mécanismes très simples au départ, hein, qui ne ressemblent pas à du racisme, d'ailleurs.
Hein. Tout à fait. C'est-à-dire, en fait, c'est pour ça qu'on fait appel, par exemple, à ce qu'on appelle la psychologie sociale, qui montre comment notre cerveau catégorise, comment notre cerveau a tendance à préférer son groupe que les autres groupes, et puis après comment finalement tout ça, avec aussi ce qu'on appelle de l'essentialisation, peut déboucher sur du racisme, et on présente des exemples dans l'histoire pour finir par un état des lieux actuel.
Alors justement, sur quel type de travaux ou de documents est-ce que vous êtes basé pour parler scientifiquement du racisme, là encore?
Alors, en fait, la partie psychologie sociale, ça a été assez facile. Il y a un consensus sur des grandes expériences de psychologie sociale. La partie histoire aussi, il y a vraiment des bons travaux d'historiens qui montrent bien comment, à certains moments dans l'histoire, on a des catégories, c'est-à-dire des groupes qui sont activés, sur lesquels on va mettre de la hiérarchie. On va considérer certains groupes supérieurs à d'autres. On va les essentialiser, c'est-à-dire on réduit les individus à l'appartenance au groupe où ils sont, leur essence. Et après ça, par-dessus, si on a une politique qui se met en place, les scientifiques, je veux dire les intellectuels, les médias et la société civile, eh ben on débouche sur des états racistes. Donc on parle par exemple des périodes coloniales en France, on parle du nazisme, de la ségrégation, du Rwanda.
Ouais, donc ça, ce sont les trois exemples à l'appui justement de
avec la colonisation en France. Ouais, il y a quatre exemples.
Avec des films aussi qu'on peut
voir.
Voilà,
et où on explique les mécanismes. Et après, il y a bien sûr l'état des lieux. Alors là, c'est encore plus difficile parce que l'état des lieux en France, il a fallu vraiment faire le tri pour arriver à trouver des données fiables sur le racisme.
Absolument.
C'est difficile à mesurer le racisme parce que c'est quand même, il y a du ressenti, les gens ne le disent pas forcément. Et heureusement, en France, il y a une très belle étude qui s'appelle Trajectoire et origine de l'Institut national d'études démographiques qui suit les immigrés, les enfants d'immigrés, 22 000, qui donne plein d'infos, notamment le fait qu'on est très peu communautariste en France.
Et qu'on aime bien se mélanger plutôt.
Oui.
Hein.
Ah oui,
ouais, les mariages, par exemple, en témoignent.
Ah, on a les deux tiers des enfants d'immigrés qui se marient avec des gens qui ne sont pas de la même origine que leurs parents. Ah, ouais. Et pour vous donner un ordre de grandeur, on connaît les États-Unis. Aux États-Unis, c'est seulement 17% des Afro-Américains qui se marient à l'extérieur de leur communauté.
Et en France ?
En France, 65%. Ouais. Donc, on est vraiment dans une société très différente. Il y a quand même de la ségrégation au logement, il y a de la discrimination, ce qu'on présente, et on présente après un état du racisme mesuré par la Commission des droits de l'homme, qui est un espèce de baromètre sur un indicateur de tolérance qui augmente en France. D'ailleurs, suite aux attentats, il a augmenté. On est vraiment un peu
donc
très
moins,
paradoxal.
Moins d'actes de racisme.
Moins de pensées racistes après les attentats qu'avant. Ouais. Et on le monte par catégories, et donc on parle de différentes formes de racisme et qui peuvent exister en France en essayant, encore une fois, d'être le plus neutre possible. On ne fait pas de prise de position morale, on décrit où on en est et après on explique comment se construisent ces catégories à l'heure actuelle en France à travers des extraits qu'on prend à travers les médias.
Ouais. Quelles sont les populations les plus discriminées au fond
qui en France, font le c'est plus les Roms.
Les Roms. Alors ça, c'est étonnant.
Oui, de loin.
On voit le classement, parce qu'il y a un classement.
Oui.
Et les personnes les moins discriminées sont les personnes...
C'est les Juifs et les Noirs.
C'est ça. Là aussi, c'est étonnant, non ?
Oui. On a un espèce d'indicateur de tolérance et vraiment tout en bas, il y a les Roms qui sont vraiment le groupe le plus rejeté.
Et de très très loin.
Et de très loin. Ouais. Vraiment très loin. Je pense que ça s'explique parce qu'ils conjuguent une étrangeté qu'on croit en termes de mode de vie, alors qu'ils sont sédentaires, mais on les croit nomades. Mmh. Et aussi, je veux dire, le fait d'un lien à la pauvreté qui fait peur.
Oui, Robin.
Et quelles sont vos autres mesures, du coup, pour avoir une notation du racisme? Il y avait les mariages, il y avait la violence.
Oui, il y a les mariages, il y a les actes racistes. Alors ça, on les présente, mais on dit que malheureusement, c'est pas des données fiables pour mesurer le racisme. Et la Commission des droits de l'homme, ils ont un indicateur de tolérance. C'est-à-dire, ils font des enquêtes chaque année auprès de plusieurs milliers de personnes où ils posent environ 70 questions. Et en fait, ils font une analyse multivariée. Enfin, ils font une analyse avec toutes ces réponses et ils sortent finalement des indicateurs qui résument ces informations-là.
Yves Parlier.
Alors moi, je suis surpris parce qu'en tant que marin, j'ai l'impression que les marins sont très ouverts et très acceptés dans le monde entier. Et je m'interroge pourquoi les Roms, qui sont aussi des gens du voyage, sont finalement discriminés.
Oui, c'est une très bonne question. Je vous dis, à mon avis, il y a aussi le fait qu'ils sont associés à une pauvreté et vraiment une marginalisation qui, quelque part, fait peur et peut déboucher sur un rejet plus fort.
Mmh. Evelyne Heyer, la génétique, évidemment, votre discipline, elle a aussi sa place dans cette exposition, parce que c'est intéressant, là, pour le coup, d'interroger vraiment la science pour parler et faire tomber les préjugés autour du racisme.
Hein. Oui, alors on présente, bon, on ne peut pas tout présenter, on a choisi quelques thème. Le premier thème qui est de dire pourquoi, en fait, il y a très peu de différences génétiques entre les populations humaines, ce qui fait que finalement le terme de race est peu approprié pour décrire la diversité. Mmh. Néanmoins, elle
existe. Quel mot on emploie alors ?
Ben, nous, on utilise le mot population.
Population. Ethnie, non ?
Non, parce que ethnie, c'est compliqué aussi. Il y a l'autodéfinition, la définition endogène, exogène. Mmh. C'est des termes un peu compliqués.
Et race, alors dans quel cadre vous l'employez ?
Nous, on l'emploie pas, mais en médecine, c'est encore très employé. Mais nous, on n'utilise pas le terme de race parce que finalement...
Il n'a pas de sens. Génétiquement, il n'a pas de sens, ce mot de race.
Génétiquement, on a les races dans les animaux.
Oui,
donc là, on voit
chez
bien.
L'homme, non.
Chez l'homme, ça ne correspond pas au niveau de différence génétique qu'il y a entre les populations humaines. C'est pour ça qu'on dit que le terme race n'est pas approprié pour décrire la diversité, mais qu'elle existe et on explique d'où vient cette diversité et pourquoi il y a des différences de couleur de peau, pourquoi il y a des différences d'apparence.
Et vous rappelez, par exemple, qu'entre deux Européens d'un même village, il y a quasiment autant de différences génétiques qu'entre deux personnes qui habitent deux continents opposés ?
Oui, il y a seulement un petit peu plus de différence du fait d'habiter à l'autre bout de la planète. 5% pour être précis.
Oui, donc c'est peu quand même.
C'est pas beaucoup.
Ouais,
donc déjà qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre deux êtres humains et qu'en plus, c'est un tout petit peu de différence en plus d'habiter à l'autre bout de la planète,
ouais.
Ça fait finalement pas beaucoup sur lequel s'est construite toute cette idéologie raciste au 19e siècle.
C'est donc jusqu'au 8 janvier. Il y a une très belle scénographie parce qu'il faut quand même en dire un mot.
Hein.
C'est très gai, très joyeux, très vivant.
Hein. Oui, et ça marche pour les jeunes et pour les moins jeunes. Et c'est l'atelier Confino qui a fait ça. Et je voulais rappeler que j'ai fait l'exposition avec une collègue qui est Carole Reynaud-Paligaud, qui, elle, est historienne et sociologue.
Voilà, donc ça s'appelle Nous et les autres. C'est au Musée de l'Homme, à Paris, des préjugés au racisme. Et vous avez jusqu'au 8 janvier prochain pour aller voir cette exposition remarquable. Dans un instant, un cerf-volant pour tracter les bateaux.
Call it how it is. Hendrix. I promise you, swag. I'm admit it. Yo. Percocet. Miley Percocet. Percocet. Miley Percocet. Represent. Gotta represent. Dang. Chase a chick. Never chase a bitch.
Chase no bitch.
Mask on. Fuck it. Mask on. Mask on. Fuck it. Mask on. Percocet. Miley Percocet. Chase a chick. Never chase a bitch.
Chase no bitch.
Two cups. Toast up with the gang.
Gang, gang.
From full stops to a whole nother domain.
Got it.
Out the bottom.
Yeah.
I'm a living proof.
Super.
Ain't compromising. Half a million on the coupe.
Gang, gang.
Drug houses.
Man.
Looking like Peru.
Oh, oh, oh.
Graduated. I was overdue.
I'm a dude.
Pink Miley.
Miley.
I can barely move.
Barely.
Ask about me. I'm gon' bust a move. Red James, 33 chains,
33.
Ocean now,
yeah.
Cruising Biscayne,
hit fire,
top off,
yeah.
That's a liability,
big fire,
hit the gas,
yeah.
Boosting my adrenaline,
big fire,
Percocet,
yeah.
Miley Percocet,
big fire,
Percocet,
yeah.
Miley Percocet,
big fire,
represent,
yeah.
Gotta represent,
gang, gang.
Chase a chick,
yeah.
Never chase a bitch,
chase
big
fire,
mask on,
yeah.
Fuck it, mask off,
big fire,
mask on.
Yeah.
Fuck it, mask up.
Big firm.
Percocet.
Yeah.
Miley Percocet.
Big firm.
Chase a chick.
Yeah.
Never chase a bitch.
Chase no bitches.
Photo maybe.
Photo.
I drive anything.
Yeah.
Buy my range.
Yeah.
Make them go insane.
Yeah.
My guillotine. Drain from Melthazine.
Drain from
taking beams,
yeah.
Go to those extremes.
Let's go,
Parliament,
Parliament.
Calamari wins,
yeah.
Parlay in Vegas, we was in attendance.
Let's go,
before the business,
yeah.
Theodore lenses,
Theodore
prescriptions,
yeah.
Focus on the mission,
put my foot.
Intermission,
hold on.
Never take a break,
we can't pull on.
Switch states,
switch
down for our place.
Speech,
ain't no way, ain't no fucking way.
No,
we come to play, we didn't come to play.
No,
rock the bank. We gon' rock the game.
Again, they gang, we gang.
Gang,
but they are not the same.
We been
Percocet,
yeah.
Miley Percocet,
big firm.
Percocet,
yeah.
Miley Percocet,
big firm.
Represent,
yeah.
Gotta represent.
Gang, gang.
Chase a chick,
chase.
Never chase a bitch.
Chase big firm.
Mask on,
yeah.
Fuck it, mask off.
Big firm.
Mask on,
yeah.
Fuck it, mask off.
Big firm.
Percocet,
yeah.
Miley Percocet,
big firm.
Chase a chick,
chase. Yeah.
Never chase a bitch.
Mask on, fuck it, mask on. Mask on, fuck it, mask on. Mask on, fuck it, mask on. Gas gun, never night on.
Mask off et c'est Future à l'instant.
La tête au carré. Le club. Sur France Inter.
Dans un instant, nous allons donc parler de cerfs-volants qui tractent les bateaux. Mais pour le moment, Bonaparte, la campagne d'Égypte, c'est un docu-fiction que vous signez, Fabrice Ourlier, qui sera diffusé en deux parties demain soir sur Arte. Vous êtes en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Et c'est une façon de découvrir le succès scientifique de la campagne égyptienne de Bonaparte en 1798, alors que sa campagne militaire, dans le même temps, était plutôt un échec, hein?
Oui, exactement, c'est un échec. Et d'ailleurs, ce qui, moi, m'a passionné dans cette histoire-là, c'est avant tout le destin des scientifiques, des savants et des artistes qui ont accompagné Bonaparte en Égypte. Et souvent, on les a un petit peu oubliés. Et alors qu'ils ont marqué l'histoire par leur travail, leur vision humaniste du monde et Ils étaient issus des siècles et des Lumières, et c'est ça que je trouvais très intéressant.
Mais ils étaient très nombreux en plus, c'est-à-dire qu'il a embarqué plus d'une centaine de savants avec lui, hein.
Il a embarqué 167 savants avec lui, ouais, qui dans un premier temps étaient destinés à servir la conquête militaire, c'est-à-dire à, en Égypte sur place, à fabriquer de la poudre, des vêtements, du pain, de la bière. Et ensuite, lorsque, entre guillemets, la conquête militaire de l'Égypte a été faite, et ben là, les scientifiques ont pu vraiment œuvrer pour leur passion, qui était en tout cas, qui était l'Égypte antique.
Ça a été un moment important pour la naissance, justement, de nouvelles disciplines scientifiques à l'époque?
Oui, c'était une première parce que c'était la première fois qu'on réunissait des scientifiques de, comment dire ça, avec des savoirs différents, c'est-à-dire des géomètres, des mathématiciens, des dessinateurs. C'est la première fois qu'on réunissait donc des scientifiques aussi différents sur un seul objectif, la découverte de l'Égypte antique. En plus, à cette époque, on considérait que l'Égypte, c'était le début de la civilisation. Et donc, ces savants et ces scientifiques, lorsqu'ils sont partis en Égypte, ils ne sont pas du tout partis dans un esprit de conquête. Ils sont partis dans l'idée de ramener la civilisation à l'Égypte. Comme si l'Égypte nous avait donné énormément de savoir et de culture, et eux sont partis dans l'idée de la rendre, de la rapporter à l'Égypte.
Donc, c'est la naissance, on peut le dire, hein, de l'égyptologie et de l'archéologie moderne, grâce aux découvertes, parce que ça, vous insistez beaucoup là-dessus dans le documentaire. Documentaire donc, qui présente ces scientifiques, quelques noms, Villiers et Jolois, par exemple, deux jeunes scientifiques de l'école polytechnique, hein, ils avaient 18 et 23 ans, c'est ce que vous racontez, lorsqu'ils partent avec Bonaparte, extrait justement de votre documentaire Bonaparte, la campagne d'Égypte.
Alors qu'ils espèrent trouver des corps humains embaumés, Villiers et Jolois devront se contenter de momies d'animaux. Mais à force de creuser partout, ils vont faire une découverte bien plus importante. Depuis l'Antiquité romaine, on connaît 11 tombes dans la vallée des rois, à Thèbes, où ne sont enterrés que des pharaons. Les deux jeunes savants en découvrent une 12e.
Lorsque nous serons rentrés en France, il ne me manquera qu'une chose. Savoir pour quel pharaon cette tombe a été creusée.
C'est sans doute écrit quelque part sur ces murs.
Que nous sommes incapables de lire.
Que ça ne t'empêche pas de continuer à copier. Peut-être quelqu'un y parviendra-t-il.
Alors Fabrice Ourlier, de quel pharaon s'agit-il? Nous sommes pendus à vos lèvres.
Là, vous me posez une colle.
Amenhotep, allez, Amenhotep, je vais vous le dire. Voilà.
Vous me posez une colle parce que j'ai en face de moi 10 feuilles.
Ouais, Amenhotep est... 3, voilà, c'était son tombeau, hein, qui a été découvert justement par ces deux scientifiques. Je voulais pas vous poser de colle, hein, excusez-moi.
Il n'y a pas de souci, je vous en prie. Mais par contre, la petite chose que je peux dire, c'est que justement, ils ont amené une méthode moderne. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'avant, les expéditions étaient le résultat d'hommes solitaires, d'aventuriers qui partaient comme ça visiter des contrées exotiques et ensuite faisaient des dessins en y rajoutant des détails en plus pour que l'image soit plus belle. Ouais. Eux, ce sont des géomètres, ce sont des étudiants de polytechnique et donc ils ont reproduit, ils ont photocopié les temples et les fresques égyptiennes. C'est ça qui fait la valeur de leur travail et c'est ce qui fait que c'est vraiment le début de l'égyptologie et de l'archéologie moderne.
Et il y aura le déchiffrement des hiéroglyphes quand même aussi dans le même temps.
Ben c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que justement, c'est ce qu'on explique dans l'épisode 2, c'est la découverte de la pierre de Rosette, hein, oui, qui en fin de compte est due à un hasard complet, puisque les Anglais, les éternels Anglais de l'époque, sont revenus en Égypte pour attaquer Bonaparte, et c'est en construisant les fortifications de Rosette, en creusant dans un mur, qu'ils ont découvert donc cette stèle. Et voilà.
Ben c'est ce qu'on verra demain donc sur Arte, puisqu'effectivement il s'agit de deux épisodes à la suite. Hein. Ça commence à 20h50. Bonaparte, la campagne d'Égypte, que vous signez Fabrice Ourlier, avec de très beaux moyens techniques pour présenter justement cet aspect scientifique du voyage de Bonaparte en Égypte. Merci beaucoup à vous et beau succès d'audience pour vous demain soir sur Arte.
Bah, je vous remercie bien parce que c'est vraiment inédit ce que vont découvrir les téléspectateurs demain.
À bientôt, merci beaucoup.
À bientôt, au revoir.
Allez, dernier sujet de notre club pour parler de ces cerfs-volants qui vont permettre d'utiliser le vent comme énergie. C'était donc un rêve qui est en train de se concrétiser grâce à vous, Yves Parlier. Navigateur, hein, on vous présente plus, vous êtes illustré dans les principales compétitions nautiques. Et donc, depuis longtemps et parallèlement à vos navigations, vous avez eu cette sensibilité à la question environnementale?
En fait, oui, j'ai fait un tour du monde en 96-97 avec uniquement des énergies renouvelables. Mmh. Et vous savez, j'ai dématé dans le Vendée Globe 2000-2001. Ça a fait beaucoup couler d'encre. J'ai réussi à réparer mon mât, mais ça a été quand même un long travail qui, entre le dématage et le moment où je suis reparti de Nouvelle-Zélande.
Ouais. C'est là que vous êtes nourri d'algues pendant plusieurs jours.
Voilà.
Oui, c'est ça. Ouais.
Même les 60 jours de retour, enfin non, les 30, puisque les 30 jours ont duré la traversée du Pacifique. Ouais. Là, j'avais rien à manger, hormis mes réserves que j'avais divisées en 60, c'est-à-dire 700 calories par jour.
Ouais.
Et j'ai récupéré aux îles Falkland dans l'Atlantique.
Et les Néières n'auraient pas aimé du tout être à votre place.
Et c'est vrai que on peut dire inventer un cerf-volant qui est vraiment idéal si on dématte sur un voilier pour pouvoir transformer son bateau en une épave flottante.
Mais à l'époque, ça n'existait pas.
Voilà.
Vous ne l'aviez pas encore inventé.
Ah, d'où l'idée.
Ben oui, c'est ça. Comme quoi, tous les échecs, quoi, les péripéties.
En fait,
Servent.
L'idée n'est pas de là. En fait, c'est plus triste que ça. En 98, j'ai eu un gros accident de parapente. J'ai des séquelles. Mm-hmm. Et j'ai continué la compétition, mais en 2006, j'ai vraiment raccroché les bottes.
Ouais.
Et je me suis lancé dans cette aventure en me disant comment aider les navires marchands qui, pendant des millénaires, ont utilisé le vent pour avancer.
Ouais.
On a oublié la voile parce que le pétrole était à volonté, que le moteur à explosion était très très efficace. Mais aujourd'hui, avec toutes les problèmes que l'on connaît, il faut réutiliser la voile.
C'est ça.
Et le kite paraissait le moyen le plus efficace.
Surtout, Christian Durum, qu'un plein d'essence pour un porte-container, par exemple, qui fait le tour du monde, ça coûte très cher, hein?
Absolument, oui, oui, ça coûte très très cher. Et donc, quand on s'imagine que, en plus de cela, lorsqu'on est au large, on voit qu'il y a quand même un vent moyen important, enfin, de l'ordre de 20 à 25 nœuds, vous me direz si je me trompe, hein, Yves.
Oui, ça c'est quand, dans les zones très ventées.
Voilà. Et quand on voit aussi, par ailleurs, toutes ces fumées que dégagent ces gros moteurs de ces porte-containers.
Et ces traces d'huile aussi sur les vagues.
Quelquefois, on se dit que c'est vraiment trop bête au 21e siècle de ne pas prendre en considération ce savoir qu'on avait avant sur l'utilisation du vent et d'essayer de le moderniser avec la technologie du kite aujourd'hui.
Ouais, Yves Parlier, je crois que c'est 5 millions de dollars, c'est ça, un plein d'essence pour un porte-container, pour un tour du monde à peu près?
Oui, oui, facilement. Oui, ça va dépendre de la vitesse à laquelle il va, mais c'est l'idée. Hein. On imagine qu'un porte-container consomme à peu près 100 000 litres de fuel par jour.
Christian Durum, comment ça fonctionne alors, puisque vous avez fait des essais? On imagine un bateau tracté par une voile. C'est aussi simple que ça?
Tracté par une voile de cerf-volant.
Ouais.
Et le cerf-volant a comme avantage, par rapport à la voile classique, de pouvoir se déplacer où vous voulez dans l'air, en adaptant la longueur de la ligne.
Ça peut aller très très loin?
Ça peut aller très très loin.
On peut imaginer une ligne de combien alors, sur un porte-container, par exemple?
On peut imaginer des lignes de plusieurs centaines de mètres. Il y a déjà eu des essais qui ont été faits par des collègues allemands, Sky Sails, sur des lignes de 300 mètres avec des cerfs-volants de 300 mètres. Donc l'avantage qu'on voit là au niveau du kite, c'est qu'en adaptant la longueur des lignes, on est capable d'aller chercher le vent que l'on ne verrait pas forcément en surface, alors qu'il existe en altitude.
Mais ça paraît insensé, c'est-à-dire que le vent à lui seul est capable de tracter, alors on prend toujours l'exemple le plus important, mais un porte-container, Yves Parlier?
Bien sûr.
Uniquement une voile de cerf-volant?
Le vent, c'est une énergie énorme, parce qu'on ne se rend pas compte de la densité de l'air, mais quand on regarde l'air en termes de volume, ça pèse rapidement des tonnes et des tonnes.
Mmh.
Et quand le vent se déplace à des allures de 50 km/h, ça développe des forces énormes. Et le cerf-volant a une faculté supplémentaire par rapport à la voile, c'est qu'il peut le voler en dynamique, c'est-à-dire qu'il est capable de multiplier sa vitesse, la vitesse du vent, par sa finesse.
Mmh.
Et comme la force aérodynamique augmente avec le carré de la vitesse, on a rapidement, avec un cerf-volant, des énergies, des forces de traction qui peuvent être jusqu'à 25 fois supérieures à celles d'une voile.
Christian Durum, avec le cerf-volant qui peut lui-même atteindre des surfaces très impressionnantes. On parlait de la ligne très longue, de plusieurs centaines de mètres, mais la voile en elle-même...
Oui, oui, ça fait partie de l'objectif in fine du programme Beyond the Sea, qui cherche à viser un marché très ouvert, très très large, on pourra en reparler, depuis le grand public jusqu'aux grands bateaux, puisque là on parle des grands bateaux, eh bien on peut parler là de, c'est notre objectif pour 2019, avec un partenaire important qui est le transporteur CMA-CGM, qui gère 450 navires, dont une centaine en propre, d'équiper des navires de 350 mètres, par exemple, avec 1600 mètres carrés de voile.
Ouais. Il va falloir former de nouveaux commandants de porte-containers, Yves Parlier, ou pas?
Absolument.
Ouais. Ça va être un nouveau métier, ça, de piloter à la voile?
Disons que ça va être une option. L'ENSM, qui est l'école qui forme en France les officiers de marine marchande, est partenaire du projet. Et évidemment, on a un programme pédagogique pour apprendre donc aux futurs marins à se servir des cerfs-volants. Mmh. Et ça commence effectivement par le grand public et des petits hors-bords de 5 mètres avec le Liberty Kite, où en 2 heures, quelqu'un qui n'est ni spécialiste de voile ni spécialiste de kitesurf va savoir se débrouiller pour tracter son bateau par cerf-volant. Ouais.
Christian Durand, vous avez calculé les économies réelles et les émissions en moins de gaz à...
Oui, il y a des essais qui ont déjà eu lieu, qui existent, qui sont connus au niveau de la littérature, qui ont été faits par les premiers en Europe à ce niveau-là, qui sont les Allemands. Eux sont sur une technologie différente. Ils utilisent un kite souple qui se gonfle avec le vent. Nous, on est plus sur une technologie de kite comme un kitesurf. Et donc là, les économies peuvent aller allègrement d'une dizaine de pourcents à 20%, 25%, selon les allures, selon la route que l'on choisit.
L'économie de carburant moyenne se situerait aux alentours de 30 000 litres par jour et par navire concerné. Yves Parlier.
Oui, alors 30 000 litres, c'est quand même une bonne journée. Sachez que donc déjà la CMA, si on leur fait économiser 10 000 litres, ils sont super contents.
J'imagine.
Et d'après les calculs sur les routes favorables, on est plus proche de 20 000 litres par jour pour un navire de 350 mètres.
Christian Hurome.
Alors, c'est effectivement, ce sont des choses qu'on a regardées à l'Ensta Bretagne, puisqu'aujourd'hui on a développé en collaboration avec Beyond the Sea, le consortium ainsi constitué, les outils permettant de simuler les économies prédictives multi-routes, multi-navires, multi-météo.
Et ça va fonctionner quand, Yves Parlier, alors?
Alors,
quand est-ce qu'on va croiser des cerfs-volants dans les grands ports de commerce?
Dès aujourd'hui, on commercialise le Liberty Kite pour des bateaux de 5 à 12 mètres. Dès aujourd'hui, on a un catamaran de 31 mètres Energy Observer qui nous sert de laboratoire d'essai pour des ailes de 50 à 100 mètres carrés. On cherche un partenaire intermédiaire entre le porte-container et ce bateau-là pour des ailes entre 200 et 400 mètres carrés. Mais en 2019, on devrait faire nos premiers essais sur le porte-container de la CMA-CGM.
Ben, on a hâte de voir ça, en tout cas. Et ce
Nous
sera, évidemment, pour utiliser le vent comme énergie. Beyond the Sea, vous avez un site internet, j'imagine.
Absolument.
Pour aller voir ce qui se passe.
Beyondthesea.com avec le tiret du 6 entre Beyond et The et entre The et
The. Voilà. Et puis, ce sera une façon de découvrir ce que vous faites très vite, Christian Hurome.
Et vous me posiez la question de savoir les essais, etc., où ça en est, nous, au niveau académique. Eh bien, si vous allez sur le site internet de l'Ensta Bretagne, vous verrez notre Kite Lab expérimental.
On met tout ça sur le site de la Tête au Carré. Merci beaucoup à tous les quatre. Passez un bon week-end et n'oubliez pas d'aller marcher pour la science demain, partout en France, à partir de 13h. Marche pour les sciences.fr pour retrouver la ville où vous rencontrerez d'autres marcheurs. Merci beaucoup, bon week-end.
Merci.